Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette émission dont l'invité exceptionnel est Abdulrazak Gourna. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le lauréat du prestigieux prix Nobel de littérature 2021, mais votre nom est aussi connu de nos auditeurs puisqu'en 2007, vous avez reçu le prix RFI Témoin du Monde, auquel j'avais la chance de participer, un prix décerné pour votre roman Près de la mer, publié à l'époque chez Galaad et qui vient d'être réédité chez De Noël. Quel souvenir avez-vous de cette récompense ?
Very pleasant memories. I remember coming to the studios to be interviewed.
Oui, j'ai un souvenir très ému de ce moment, très agréable. Je me souviens être arrivé au studio pour l'interview, et je me souviens très bien le moment où on m'a décerné ce prix.
It was a great pleasure.
Dans un de vos romans, vous citez Rimbaud, par exemple, le poète. Il y a même des expressions qui sont directement écrites en français. Et j'oubliais d'ailleurs de citer Senghor, dont ici, un de vos personnages est un grand lecteur. Est-ce que vous aussi, vous êtes un admirateur de Senghor, Abdulrazak Gourna ?
Yes, I have read and studied his work and taught his work.
Oui, Senghor est sans aucun doute un immense poète. Je l'ai étudié, cité, enseigné même à l'université.
There is a poem of his about New York. It's called New York.
Il y a ce fameux poème intitulé « New York » où le narrateur, avec un enthousiasme non dissimulé, montre sa joie lorsqu'il arrive à New York. C'est à l'époque de la Renaissance de Harlem.
During the period of the Harlem Renaissance.
Donc depuis notre première rencontre en 2007, Abdulrazak Gourna, évidemment, vous n'avez cessé d'écrire et à ce jour, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans. Une œuvre qui a donc été couronnée en octobre dernier par le plus célèbre et le plus gratifiant des prix, le Nobel. Quelle a été votre première réaction quand vous l'avez su ?
Well, there's a reaction which is to be absolutely surprised, completely surprised.
À vrai dire, je suis passé par plusieurs sentiments. La première réaction, c'était une réaction de surprise totale lorsque j'ai reçu ce coup de téléphone, au point de me demander si c'était vrai, est-ce que c'est un canular.
But after that, it became clear that it was true.
Et puis au bout d'un moment, évidemment, les choses ont évolué et j'ai compris que c'était pour de vrai et j'ai ressenti une immense fierté, un immense honneur que d'être invité à faire partie de ce groupe d'illustres écrivains dont certains font l'objet d'une très grande admiration de ma part.
Est-ce que cette reconnaissance avait encore plus de valeur, sachant que vous êtes seulement le sixième récipiendaire de ce prix du continent africain ?
Yes, it is significant. It's clearly
oui, cette reconnaissance est très importante parce qu'en fait, elle a baigné dans une joie de milliers d'Africains qui se sont retrouvés. Et moi-même, j'étais particulièrement content de voir la joie de mes lecteurs qui me considèrent comme un écrivain qui n'est pas nouveau, que je ne suis pas le premier venu pour eux. Et c'est absolument formidable, cette reconnaissance, de voir à quel point les gens ont pu se rejoindre pour cette célébration autour de ce prix en mon honneur.
In their celebration and their happiness. That was very, very good.
L'Académie suédoise a déclaré vous honorer pour votre pénétration intransigeante et compatissante des effets du colonialisme et que vos romans reculent devant les descriptions stéréotypées et ouvrent notre regard sur une Afrique de l'Est culturellement diversifiée, inconnue de beaucoup dans d'autres parties du monde. Fermez les guillemets. Est-ce que vous avez l'impression, en effet, que votre littérature permet cette découverte d'une région du monde qui n'est pas assez présente dans les livres ?
Oui, je crois que c'est ça la grande valeur des prix littéraires, mais du Nobel en particulier, parce que le prix Nobel a un caractère mondial que n'ont pas d'autres prix littéraires. En effet, ça permet d'ouvrir le regard, c'est la citation, sur cette région qu'est l'Afrique de l'Est, de faire découvrir un écrivain et l'histoire de cette région, histoire contemporaine ou non, que je décris dans mes livres, en effet, donc, ouvrir le regard des gens sur cette région. C'est tout à fait une des grandes valeurs du prix Nobel.
What we gain from literature, I think, from writing. It's not the only thing. It may not even be the most important.
Mais la littérature, en fait, et c'est peut-être pas le point le plus important de la littérature, mais la littérature permet quand même de faire découvrir d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres régions, et ce, en profondeur. Et quand on bénéficie de cette découverte par la lecture, le plus surprenant, c'est qu'en fait, ailleurs, les gens ne sont guère différents de nous.
Et de fait, quelles ont été les réactions en Tanzanie, votre pays natal, Abdulrazak Gurna?
Excellent, it was terrific.
Oh ben, la réaction a été excellente, géniale. Le jour même, j'ai reçu des messages de félicitations de la présidence de la Tanzanie et de Zanzibar. J'ai donné pas mal d'interviews.
I just recently have returned from Zanzibar, just 2 weeks ago.
J'étais à Zanzibar récemment, là, il y a une quinzaine de jours. C'était la première fois que je m'y rendais depuis que j'ai reçu le prix Nobel. Et à Zanzibar, la réaction était absolument formidable. Mon avion a atterri, puis à partir de là, ça a été absolument génial. Et ça n'a été que joie, célébration, jusqu'au moment où je suis reparti.
Est-ce que vous alliez régulièrement en Tanzanie avant d'avoir le prix Nobel de littérature, ou ça a été l'occasion justement de renouer avec... ce pays?
It varied. When my parents were alive,
c'est variable en réalité. Du vivant de ma mère, j'y allais assez souvent. Mon père, lui, est décédé au moment où je suis retourné en Tanzanie pour la première fois. Mais je dirais que j'y vais tous les deux ans, à peu près. Depuis le décès de ma mère, j'y vais moins souvent. Vous savez, il y a d'autres endroits du monde à visiter. Je ne suis pas obligé de retourner sans arrêt en Tanzanie. Ma femme vient des Caraïbes, donc on va dans les Caraïbes de temps en temps. À chaque fois que j'ai le désir d'aller en Tanzanie,
So we also go to the Caribbean sometimes, we go to Zanzibar sometimes. Whenever I feel the desire or the need to go, I go.
Il me semble que vous avez écrit, Abdulrazak Gurna, je suis de là-bas, dans ma tête, c'est là où je vis. Comme si vous aviez deux existences parallèles, une en Grande-Bretagne et une en Tanzanie. Est-ce que c'est le cas?
That's correct, yeah. And I think it's probably a very common condition.
Oui, mais cela est tout à fait banal. Vous savez, lorsque l'on vit quelques années dans son pays natal et puis qu'ensuite on le quitte, évidemment, on a deux existences parce que les premières années que l'on passe dans son pays natal vous forment, font ce que vous devenez.
So I think it's probably a common condition that people are able or even
on peut avoir cette expérience, on peut même la préférer d'ailleurs, parce qu'on peut vivre dans la pratique, avoir les deux pieds dans un endroit, mais son imagination peut être ailleurs. Personnellement, moi, c'est quelque chose que j'aime. Je trouve même ça irrésistible de me voir sous différents jours.
Mais c'est peut-être précisément ce que permet la littérature, Abdulrazak Gurna, être à la fois dans deux mondes, deux endroits en même temps.
Maybe it is, or maybe three places.
Pourquoi pas trois endroits aussi d'ailleurs.
I think it's for me. It gives me, I feel, an added benefit.
Oui, enfin, en ce qui me concerne, je pense que ça me procure un avantage supplémentaire. J'écris en anglais, mais je suis inspiré par d'autres langues aussi et d'autres réalités. Donc, ça apporte de la complexité. C'est plus intéressant, si vous voulez.
More interesting for me.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Précisément, parlons de littérature avec vous, Abdulrazak Gurna, et en particulier ces trois titres réédités et disponibles en français, Près de la mer, Paradis et Adieu Zanzibar, sachant que depuis vous avez écrit plusieurs autres romans qui ne sont pas encore traduits en français. Je les cite The Last Gift, Gravel Heart et Afterlives. Et si vous voulez bien, j'aimerais m'arrêter en particulier sur Adieu Zanzibar, Desertion en anglais, dans lequel, me semble-t-il, mais nous allons en parler ensemble, sont cristallisés les thèmes qui traversent votre œuvre, l'histoire de la Tanzanie, bien entendu, l'exil forcé ou volontaire, la colonisation et ses impacts, la solitude et la souffrance des femmes, des hommes, quand leur société, leur culture, leur religion, leur genre même les enferment dans des prisons mentales. Et puis ici, en particulier, la question de l'écriture, puisque plusieurs de vos personnages ici sont des écrivains. Donc commençons par l'exil, qu'il soit voulu ou non. C'est une expérience traversée par nombre de vos personnages, que ce soit dans Paradis, le déplacement forcé d'un enfant de 12 ans près de la mer, l'odyssée d'un homme de 65 ans vers la Grande-Bretagne et aussi donc Rachid, l'étudiant qui quitte Zanzibar à la veille de l'indépendance du pays. Et vous, Abdulrazak Gourna, dans quelles circonstances avez-vous dû quitter la Tanzanie pour venir en Grande-Bretagne en 1968 à l'âge de 20 ans?
Yes, I left in 1967.
En fait, j'ai quitté la Tanzanie en 67, mais c'est un petit détail. Moi, j'ai donc quitté mon pays à l'âge de 18 ans parce que je me trouvais empêché de mener la vie que je voulais vivre. Je ne pouvais pas m'épanouir, je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas acquérir des compétences comme je l'entendais là où j'étais, donc j'ai décidé de partir. L'impulsion, donc, c'était de rechercher une vie meilleure parce que ma vie n'était pas en danger, j'avais de quoi manger, mais je voulais simplement améliorer mon sort et mener une vie meilleure. Donc le terme exil dramatise un petit peu à l'excès tout cela. Et ce n'est pas mon expérience. Je ne mérite pas, si vous voulez, qu'on parle de cette expérience comme étant celle d'un exil en ce qui me concerne. Pour moi, c'était un acte de désespoir. C'est le désespoir qui m'a fait m'exiler et ce n'était pas une question de principe.
Et aujourd'hui, 50 ans après votre expérience, où même si ce n'était pas un exil au sens politique du terme, vous étiez quand même demandeur d'asile, d'après ce que j'entends, hein, vous ne pouviez pas rester là où vous viviez. 50 ans plus tard, le nombre de réfugiés ne cesse de croître. Qu'est-ce que ça dit de notre monde, selon vous, Abdulrazak Gourna?
Yes, the number of refugees have increased. Number of refugees coming to Europe have increased.
C'est vrai que le nombre de réfugiés en Europe ne cesse d'augmenter, s'agissant de ceux qui ont fui l'Irak, la Syrie, la Libye, la République démocratique du Congo, que sais-je encore. Mais cela, c'est le résultat d'initiatives ou d'interventions de pays occidentaux. Quant à la différence entre le nombre de réfugiés aujourd'hui et ceux qu'il y avait dans les années 60, eh bien, je dirais que la différence vient du fait que de nombreux réfugiés aujourd'hui fuient la guerre, la violence, ces actions menées par des États, actions qui sont totalement intolérables, et ces gens-là se disent que l'Europe, c'est le lieu de refuge par excellence.
And the only place they can think to come to is Europe. And I think when people are in danger of their lives in this way,
ce sont des gens dont la vie est en danger, et en tout état de cause, nous avons une obligation humaine d'offrir l'hospitalité à ces gens-là. Que le nombre de réfugiés soit important ou non, qu'il soit en croissance ou non, il ne faut pas détourner ces gens-là, les éloigner de nous. Au contraire, nous devons ouvrir les bras, les accueillir, parce que ces gens-là ont fui leur pays au péril de leur vie et les conditions dans lesquelles ils ont été détenus méritent absolument qu'on les accueille. Il en va de notre devoir d'être humain, c'est un devoir humaniste.
So I think perhaps a more humane approach is possible.
Et justement, je suis heureuse d'entendre votre réponse, Abdulrazak Gourna, parce que c'est parfaitement illustré par la toute première scène d'Adieu Zanzibar, magnifique réussite, où vous ouvrez le roman sur la figure de l'étranger, mais ici c'est un Anglais qui arrive après une traversée du désert où il a failli mourir, dans une petite ville côtière d'Afrique de l'Est, et il est sauvé par une famille sur place, ce qui en effet souligne la nécessité de l'accueil de l'autre, l'hospitalité envers une personne, quelle que soit son origine. Et là, d'une certaine façon, vous renversez les clichés et la problématique.
That is correct. I was thinking as most societies do.
Oui, en fait, dans la plupart des sociétés, c'est en fait assez naturel que lorsque quelqu'un arrive et a un problème et a besoin d'aide, eh bien, on propose de l'aide. On pourrait penser que l'Europe, avec ce qu'elle a vécu au XXe siècle, pourrait, avec tout ce qu'a connu l'Europe de l'Est, tous les gens qui ont été détenus et ainsi de suite, on pourrait penser que les Européens seraient plus accueillants. Mais il semblerait que cette mémoire du XXe siècle européenne ait été quelque peu effacée. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il en va de la responsabilité de l'individu, mais aussi de la responsabilité collective, que de faire montre de générosité et d'ouvrir les bras et de proposer son aide à des gens qui en ont besoin.
Somebody who arrives amongst them injured and in need of help, you offer help.
Cette scène se passe en 1899, car toute la première partie du roman raconte l'époque coloniale, l'Empire britannique, et en particulier une histoire d'amour entre Pierce, l'Anglais rescapé, donc, et Rihanna, la sœur de celui qui lui a sauvé la vie. Et c'est une liaison transgressive de tous côtés, dont les conséquences joueront un rôle important 60 ans plus tard dans la deuxième partie du roman, qui là met en scène la petite fille du couple et qui subit une sorte de malédiction de l'union de ses grands-parents. Qu'est-ce que ça dit, cette histoire de transmission qui est vouée à l'échec, qu'on est toujours prisonnier du passé de sa famille, de son pays et en particulier de la colonisation?
Well, I think it's the case that sanctions of one generation.
Oui, en fait, cette sanction est transmise. L'expérience d'une génération est transmise à la génération suivante. Et là, en l'occurrence, vous avez décrit cette relation entre cet homme anglais et cette femme qui habite à l'endroit où arrive cet anglais. D'un point de vue européen, effectivement, cette relation est transgressive. Mais elle l'est aussi vue par l'autre côté.
Transgressive from the other side as well, and so it becomes a clandestine relationship, a relationship in of shame.
Là aussi, il y a dans leur esprit transgression. Cette relation est jugée honteuse, et c'est justement cette honte qui est transmise. La progéniture porte cette honte en elle. Cela est perpétué. C'est un fardeau que doit vivre la prochaine génération. Et ce fardeau, il existe même si cette génération n'est pas encore née. En fait, la génération va connaître cette honte qui remonte à une autre époque.
The unborn almost, or the next generation with the sanctions and strictures of another time.
Effectivement, la transgression, et je ne l'ai pas précisé, est bien des deux côtés, on est d'accord. Mais dans quelle mesure est-ce que ça veut dire que la colonisation de cette époque perdure 60 ans plus tard?
Oh, of course, in that respect. But I don't think in this respect it is just to do with colonization.
Oui, bien sûr, mais au-delà de la colonisation, en fait, il s'agit d'amour, parce que, par exemple, s'agissant de cette relation, l'un des frères de cet homme veut le protéger de cette relation en ce qu'elle a de très honteux. Donc, c'est par amour qu'il agit comme ça, mais la réalité, en fait, c'est qu'on impose l'autorité de la culture sociétale, en quelque sorte. Mais pour revenir à la question de la colonisation, oui, les conséquences, nous les vivons encore aujourd'hui, au quotidien, et les aspects de ces retentissements sont très nombreux.
But so far as colonialism is concerned, yep, we live with the consequences in all sorts of ways, not just in relations between individuals.
En tout cas, dans ce roman, clairement, un demi-siècle plus tard, puisque le roman est articulé en deux époques, 1899 et ensuite les années 1950-1960, la troisième génération, clairement, ne réussit pas à se libérer de ses conséquences. Donc, plantons le décor de cette deuxième partie pour nos auditeurs. Nous sommes donc dans les années, comme je le disais, 50-60, avec une famille unie, composée d'un couple qui s'aime profondément, sincèrement, toujours à Zanzibar. Ils ont 3 enfants, une fille, Farida, et 2 garçons, Amin et Rachid. Et l'histoire que nous allons lire est essentiellement, mais pas que, racontée par Rachid, qui lui va faire ses études en Grande-Bretagne juste avant l'indépendance en 1963. Une indépendance qui, vous le rappelez dans ce roman, va se faire dans la douleur, avec des semaines, des mois, des années peut-être de peur, de chaos, de pénurie, de rejet et de repli. Est-ce que vous vous êtes servi de vos souvenirs personnels de cette époque, même si vous n'avez pas tout à fait le même âge que vos personnages, pour nourrir ce pan historique?
Oh yeah, sure, I use my memories and experiences, but always.
Oui, bien sûr, mais j'utilise mes souvenirs et mon expérience, mais l'angle par lequel j'aborde cela est légèrement différent. Je vais vous donner un exemple. Rachid, lui, dans le livre, est obsédé par la langue italienne. Ce n'est pas mon cas, ça n'a jamais été mon cas. Cela dit, je me souviens quand j'étais tout petit, je devais avoir quoi, 8 ans à peu près, on m'a donné une méthode d'apprentissage de la langue française. Et j'ai été passionné par ce livre et je parlais aux gens constamment. Je devais ennuyer tout mon entourage avec ce livre sur le français. Donc c'est un petit peu la même chose, mais pas tout à fait.
But not in any really profound way. I mean, the sources very often of what I write.
Il y a des souvenirs qui me reviennent et dans lesquels je puise pour écrire. Il y a des choses dont j'ai entendu parler d'une certaine époque. Là aussi, je m'en sers. Autre exemple qui existe, l'homme qui déambule dans les rues pour les appels à la prière. Ça, j'ai vécu ça. C'est du vrai. Mais Rachid, lui, part pour l'Angleterre et s'installe à Londres. Moi, je ne me suis pas installé à Londres. Donc, il y a le contexte. C'est très important de contextualiser les choses dans l'histoire, mais il y a aussi les détails, et les détails qui émanent de ma propre expérience et qui servent de ciment à l'histoire au fil du récit. Donc je vous explique tout ça pour vous dire que cette expérience et ces souvenirs ne constituent pas ce que l'on peut appeler une autobiographie, en quelque sorte.
En tout cas, il me semble que le mot-clé de ce livre, et peut-être de vos autres livres, Abdulrazak Gourna, c'est la question de l'indépendance. Historique, bien sûr, mais surtout individuelle. Comment est-ce qu'on s'affranchit ou pas d'un joug? Et je dirais même particulièrement l'indépendance féminine. Ici, vous avez 3 femmes, 3 personnages. Rehana, la grand-mère, Jamila, la petite fille, et même Farida, la sœur discrète de Rachid, le narrateur, qui sont dans une vraie démarche d'indépendance, de libération de leurs conditions, de transgression du statut qu'on leur assigne en fonction de leur âge, de leur classe sociale, et qui par amour fuient, divorcent, aiment des hommes plus jeunes, écrivent, publient des recueils de poésie. Qu'est-ce que vous pensez de ma lecture féministe, Abdulrazak Gourna?
I think it's perfectly valid. Pretty good.
Oui, elle est pas mal, votre lecture féministe. Oui, ça me va bien. C'est vrai qu'autour de moi, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des contraintes, des restrictions, particulièrement les gens de la génération de mon père et de ma mère. À leur époque, les garçons pouvaient aller à l'école alors que c'était interdit aux filles. Le résultat, c'est que ma mère, ma tante, par exemple, ne savait pas lire ou écrire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait préserver, dans la culture de la société, l'autorité masculine.
Preserving the authority of the father, of the male, and not necessarily of the particular male.
Mais sinon, à contrario, j'ai 4 sœurs qui ont, peu ou prou, réussi à mener une vie bonne malgré ces restrictions. Donc plutôt que d'indépendance, moi je souhaiterais faire la distinction entre indépendance et la capacité d'agir. Bien que l'on nie à ces femmes certains droits, certaines formes de liberté, elles arrivent à agir tout de même comme elles l'entendent et à mener la vie qu'elles veulent. Donc il y a quand même une amélioration et c'est justement ces deux aspects que j'essaye de dépeindre.
So that's what I try to portray.
Donc, vous êtes un observateur. Est-ce que pour autant, vous pourriez être un militant de la cause féministe avec vos livres, Abdulrazak Gourna?
My advocacy is with a keyboard.
Militant avec mon clavier d'ordinateur. Oui.
Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. La littérature peut avoir cette forme de d'engagement pour la cause des femmes.
Well, it makes that. Of course, it does. Yes, it's important to speak about all kinds of injustices as well.
Oui, la littérature permet d'évoquer les injustices et de les combattre par les mots. Mais pour autant, je ne veux pas porter une étiquette féministe ou non féministe. Vous voyez. Mais moi, quand j'assiste à une injustice, eh bien, je veux en parler.
I want to talk of it. And this is true. Both in the treatment of women in many societies, but in particular,
et cette injustice a frappé les femmes dans de nombreuses sociétés, notamment celle de mon pays natal. C'était le cas dans le passé. C'est en train d'évoluer de manière favorable. Cette injustice frappe également les enfants, dont on se sert d'un point de vue purement mercantile. Mais il y a aussi cet aspect de l'amour protecteur que l'on a évoqué précédemment, et qui et tout cela donne lieu à plus de peine et de problèmes que de joie et de bonheur.
Which results in sorrow rather than happiness.
Pour finir, Abdulrazak Gourna, la question de l'écriture, illustrée ici par vos trois personnages, qui donc sont poètes pour Farida, Amine qui écrit de la correspondance, un journal intime, et puis Rachid qui lui prend en charge cette histoire et la raconte pour comprendre pourquoi cette histoire d'amour que son frère a eue avec Jamila n'a pas pu aboutir, pour mettre en lumière la souffrance, sans doute invisible, pour se consoler, pour réparer. Je ne sais pas pour quelle raison exacte Rachid écrit, mais vous, Abdulrazak Gourna, quel est le moteur de votre écriture?
Well, I think when I started...
À vrai dire, j'ai commencé à écrire pour essayer de démêler la complexité dans laquelle je baignais, et j'y ai trouvé une grande satisfaction. Puis après, c'est devenu une aspiration que d'écrire pour les autres, en quelque sorte. Et puis ensuite, c'est devenu une addiction. Quand vous écrivez et que ça vous plaît, et surtout si ça marche bien, eh bien, on n'a qu'une seule envie, c'est de continuer. Ça devient irrésistible, en réalité. Quand je vois quelque chose d'intéressant, je me dis, ah oui, ça vaudrait la peine que j'écrive à propos de ça. Puis ça prend une forme plus concrète, et c'est ainsi que j'avance. Mais cette question de pourquoi j'écris, je ne me la pose pas. C'est ma vie.
It's just my life.
Vivre pour écrire ou écrire pour vivre, ce sera peut-être l'objet d'un prochain sujet lors de notre prochain entretien, Abdulrazak Gourna. En attendant, merci infiniment d'être venu dans l'émission de Littérature sans frontières sur RFI, nous parler de ce prix Nobel de littérature qui vous a récompensé, mais également de ces trois livres, Adieu Zanzibar, Paradis près de la mer, traduit de l'anglais par Sylvette Glaise et Anne-Cécile Padoux, réédité aux éditions de Noël, qui, j'espère, nous annonceront bientôt les prochaines traduction. Merci beaucoup à Xavier Comble, interprète, et puis aux côtés de Fanny Renard pour la partie son de l'émission. Merci aussi à Swell Kedir pour la réalisation de la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup.
Thank you.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.